Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon début de semaine à tous. L'antenne vous appartient. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h heure de Paris, 9h en temps universel avec notre débat du jour qui sera aujourd'hui consacré au transfèrement de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Vous êtes très nombreux à souhaiter prendre la parole, à souhaiter commenter la décision des autorités ivoiriennes. Je vous rappelle que l'ancien leader des Jeunes Patriotes est donc le deuxième Ivoirien à avoir été transféré à la CPI. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Fin 2010, début 2011. Alors comprenez-vous cette décision ? On va en parler, d'autant que pour les mêmes chefs d'accusation, les autorités ivoiriennes refusent de transférer à la CPI Simone Gbagbo. Abidjan affirme en effet que pour la femme de l'ex-président, la justice ivoirienne est capable de lui assurer un procès équitable. Alors que vous inspire cette différence de traitement ? Quelles peuvent être les conséquences de ce transfèrement ? En tout cas, le FPI, le parti de l'ex-président, dénonce une entrave grave à la réconciliation nationale. Vos commentaires, vos réactions, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, plus de 300 messages postés. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter les différents sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien vous nous appelez. Et on se fait évidemment un plaisir tous les matins de vous répondre. La première question nous vient de Mopti. Nous allons donc au Mali. Bonjour Seydou.
Bonjour Juan Gomez.
Mopti à 600 km au nord de Bamako. Vous avez-vous des questions concernant le Vatican ?
Oui, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde. Juan, comme vous le savez, il y a un peu plus d'une année qu'un vent nouveau souffle sur le Vatican.
Ouais.
C'est dans cette optique qu'un ministère de l'économie a été créé, cette décision du pape François. Alors, j'ai trois questions, dont voici la première. Pourquoi il n'y avait pas de ministère de l'économie avant au Vatican et comment étaient gérées tout simplement les finances ?
Ah, bonne question. C'est vrai que c'est une révolution hein, au Vatican, la création d'un secrétariat pour l'économie. Hein, c'est l'intitulé exact, secrétariat pour l'économie, c'est, pour dire clairement les choses, un ministère qui sera donc chargé de l'économie de l'État du Vatican. Antoine-Marie Zohar est notre correspondant sur place. Bonjour Antoine-Marie.
Bonjour Juan et bonjour à vos auditeurs.
Alors je le disais, c'est une révolution au Vatican. C'est vrai qu'avec la création de ce ministère, le pape François donne un coup d'accélérateur à cette réforme de la curie qu'il avait promis en arrivant aux affaires. Juste pour planter un peu le décor, on peut comprendre la question de Seydou. Jusqu'à présent, il n'existait pas de ministère de l'économie au Vatican ?
Alors en soi, il n'y avait effectivement pas, Juan, de ministère au sens de dicaster, c'est le terme qu'on utilise ici, très italien, c'est-à-dire de ces nombreux ministères qui gèrent, qui assurent le gouvernement de l'Église. Il n'y en avait pas un en charge spécifiquement des affaires économiques ou financières. Il y avait plusieurs organismes, il y a toujours plusieurs organismes de plusieurs institutions. On pense à la fameuse Banque du Vatican, l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, qui a été, on le sait, traversé par des affaires assez complexes hein, dans les années 80, mais encore assez récemment avec des affaires de corruption entre autres ou de
blanchiment
d'argent. Voilà, de blanchiment assez complexe et délicat en Italie. Donc il y avait de nombreux organismes, la préfecture pour les affaires économiques, l'administration du patrimoine du siège apostolique, je vous en passe, et des meilleurs. Et le problème, c'est que beaucoup de ces institutions ne travaillaient pas toujours ensemble et qu'il y avait une forme d'absence de transparence. Alors ça ne veut pas dire que les papes spécialement cachaient de l'argent, faisaient des affaires pas nettes, mais il y a évidemment dans ces équipes-là des hommes, des prélats, des religieux ou des laïcs qui profitaient parfois de l'excès de secret, si vous voulez, ou de réserve sur les finances vaticanes. Et ça, c'est ce que ce pape et ce que déjà son prédécesseur veulent mettre à mal et en favorisant une plus grande transparence.
Donc ça signifie, si je comprends bien Antoine-Marie Zohar, que désormais, le pape disposera d'un appareil unique, d'un outil unique pour traiter toutes les questions économiques et financières du Vatican ?
C'est exactement ça, et vous l'avez dit, il s'appelle le Conseil, le Secrétariat pour l'économie, avec en son sein un Conseil pour l'économie, dont les membres ont été nommés très récemment, hein, de ce Conseil. Dans ce ministère, d'une certaine façon, sont présents 8 cardinaux du monde entier, donc des super évêques, si vous voulez, dont un Français, l'archevêque de Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, et puis 7 laïcs, donc des non-religieux, des experts de choses financières et économiques, dont là encore un Français, Monsieur Jean-Baptiste de Françu. Sachez que ce nouveau secrétariat, il aura autorité sur toutes les activités administratives économiques au Vatican, et il pourra entre autres, il devra entre autres préparer le budget du Saint-Siège, de la Cité du Vatican, qui sont deux entités différentes, et s'occuper aussi des ressources financières, des ressources humaines et de l'approvisionnement. Et puis, il se réunira régulièrement à Rome pour préparer, pour analyser tous les rapports sur les activités du Saint-Siège.
Ouais, on a un peu répondu finalement à la deuxième question que s'était posée Seydou sur les missions de ce nouveau ministère de l'économie. Vous avez encore d'autres questions, Seydou, hein ?
Oui, donc comme il a pris en compte les réponses de la deuxième question, on passe à la troisième question.
Allez-y.
Je sais aussi, Juan Christophalin Georges Pell, qui est aussi l'archevêque de Sydney, qui a été nommé. Alors, quels sont les critères sur lesquels il a été choisi et qu'est-ce qui a fait la différence en Nemo ?
Oui, c'est vrai que ce ministère sera chargé par un cardinal australien, Georges Pell, l'archevêque de Sydney. Pourquoi lui et pas un autre, Antoine Marizot, hein ?
Alors, puisque j'avais commencé déjà par la deuxième question, je la termine aussi, excusez-moi de faire ce va-et-vient, mais je réponds aussi à une chose, je vous dis juste une petite précision que je n'avais pas faite tout à l'heure, c'est que les statuts du secrétariat pour l'économie, ils sont encore en train d'être rédigés, et ils sont rédigés justement, et on arrive à votre troisième question, c'est d'où par Georges Pell. Georges Pell, c'est un homme de 75 ans à peu près, donc il ne restera pas très très longtemps à la tête de ce dicastère, de ce ministère, mais on dit ici que c'est un homme fort, un homme de grande expérience de gouvernement, connu pour être assez strict, assez sévère, ce qui est plutôt bon dans les affaires de finances, et puis il a une très très large expérience du gouvernement dans l'Église. D'abord, c'est un anglo-saxon, un anglophone, c'est important dans les affaires financières aussi, et puis une fois de plus, il a beaucoup d'expérience, il est évêque depuis plus de 25 ans, il a été à Melbourne, et puis il était archevêque de Sydney depuis au moins 15 ans, il faudrait que je vérifie. Et puis sachez que le pape François avait déjà fait signe à lui dès le début de son pontificat pour faire partie du fameux G8, du fameux C8, du groupe des 8 cardinaux qui sont chargés de le conseiller, de l'aider dans la gestion, dans le gouvernement de l'Église.
Merci beaucoup Antoine Marie Izoard. Bonne journée au Vatican. Seydou, merci de nous écouter à Mopti où il est 8h17. 33 9 693 693 70. Plusieurs questions sur la situation en Libye. Arsène, vous êtes à Paris. Bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. On vous écoute. Vous avez des questions précises concernant les occupations de plusieurs sites pétroliers à l'est de la Libye.
Oui Juan. Bonjour à tous les auditeurs du RFI. Effectivement, nous avons appris en juillet 2013 que des groupes rebelles en Cyrénaïque occupent depuis cette période-là des terminaux pétroliers. Alors, nous avons aussi appris que le gouvernement libyen a donné un ultimatum à ces groupes-là jusqu'au 26 mars pour la libération de ces terminaux-là. Alors, ma question est de savoir comment expliquer la durée de ce blocage-là des sites pétroliers dans l'est de la Libye. Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que les autorités libyennes en matière de capacité de troupes peuvent réellement récupérer ces terminaux-là comme annoncé.
Ouais, Tripoli a donné jusqu'à mercredi, donc encore 48 heures, aux rebelles pour lever le blocage des sites pétroliers. Marine Casalis est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes notre correspondante à Tripoli. C'est vrai que ça fait maintenant 8 mois que des rebelles défient le gouvernement central en bloquant plusieurs principaux sites pétroliers de l'est du pays. Et on sait que le pétrole représente quand même la principale ressource du pays. Donc c'est un véritable coup dur pour les autorités de Tripoli. D'abord, comment expliquer que ce blocage s'éternise autant ?
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les autorités libyennes, en fait, n'ont peu ou pas de contrôle du territoire en dehors de la capitale. Et même si vous vous en souvenez, même à Tripoli, l'ex-premier ministre s'était fait enlever pendant quelques heures en octobre. La région donc du golfe de Sirte, où se trouvent ces terminaux pétroliers bloqués par les autonomistes, n'échappe donc pas à cette réalité. À de nombreuses reprises, en fait, Tripoli a menacé les hommes qui bloquent ces terminaux de recourir à la force, mais sans effet jusqu'à présent. Alors il y a bien eu quelques affrontements dans la région de Sirte, mais aussi à Ajdabia la semaine dernière, Ajdabia, ville bastion de ces autonomistes, mais pour le moment, rien de conséquent. Et de nombreux observateurs, en fait, redoutent une escalade de la violence et une aggravation de la situation si des confrontations armées devaient avoir lieu. Donc depuis le début de la crise, il y a eu plusieurs tentatives pour résoudre la solution. Des négociations avec les grandes tribus de l'Est de la Libye, des négociations entre le gouvernement et les autonomistes, entre le Parlement et les autonomistes, mais pour le moment, eh bien, aucune situation n'a été trouvée et on craint effectivement que le gouvernement décide de passer une confrontation armée pour résoudre cette situation.
Ouais, en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que Tripoli menace de recourir à la force. Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Est-ce que ça signifie finalement que les autorités libyennes n'ont pas les moyens militaires pour récupérer ces sites pétroliers ?
Alors effectivement, la question des moyens est assez cruciale pour Tripoli. En fait, les autorités centrales disposent de peu de ressources militaires. L'armée n'a pas une hiérarchie très forte et très respectée et elle est encore très faible. Si Tripoli s'attaquait aux hommes d'Ibrahim Jadran, donc l'homme qui est à la tête des autonomistes, elle devrait en fait faire appel à des brigades officiellement sous autorité du ministère de l'Intérieur ou de la Défense, mais qu'elle contrôle peu ou pas, en réalité, une situation assez dangereuse qui pourrait faire craindre, en fait, une montée de la violence entre des groupes aux intérêts différents. D'un côté, des brigades loyales aux autorités centrales, dans ce cas très précis, mais qui n'obéissent en fait qu'à elles-mêmes, et de l'autre, des hommes menés par celui qui était à la tête des gardes chargés de la sécurité de ces mêmes installations pétrolières. En fait, en Libye, les nombreux groupes d'hommes armés ou milices peuvent établir des alliances de circonstances, mais aucun groupe ne semble pour le moment assez puissant pour s'imposer aux autres durablement. Mais en tout cas, ils ont tous une capacité de nuisance assez forte. Ils sont suffisamment puissants pour se mettre en travers d'un apaisement de la situation.
Que recherchent ces groupes rebelles en bloquant ainsi les sites pétroliers, en bloquant la principale richesse du pays ?
Alors en fait, ce qu'ils demandent depuis cet été, c'est officiellement plus de transparence dans la vente du pétrole, notamment une enquête sur des accusations de fraude. Ils accusent depuis cet été Tripoli d'avoir vendu du pétrole illégalement. Et ils demandent aussi, ils ont aussi des revendications plus politiques, ils demandent un meilleur partage des revenus du pétrole, notamment entre la région ouest et la région est. Il faut savoir que les principales ressources pétrolières viennent de l'est de la Libye, du golfe de Sirte, et donc ils demandent un meilleur partage de ces revenus pétroliers et également plus d'autonomie pour la région est. Et au fur et à mesure des mois, en fait, eh bien, leur discours s'est radicalisé face au manque de réaction de Tripoli.
Ouais, en tout cas, ce blocage commence à coûter très cher à la Libye. Le manque à gagner est estimé par la Banque mondiale à plus de 10 milliards de dollars. Il faut dire que la production pétrolière n'a jamais été aussi faible. Elle est passée d'1,5 million de barils par jour avant la crise à peu près 250 000 aujourd'hui. Restez encore avec nous, Marine Casalis. On remercie Arsène qui nous appelait de Paris. Une autre question, hein, toujours sur la Libye. Jean, bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes au Bénin, à Cotonou. Nous vous écoutons.
Oui. Et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Moi, je continue aussi dans cette crise. J'aimerais savoir, pendant que les rebelles ont vendu du pétrole à un tanker battant pavillon nord-coréen et qui s'en est échappé après, j'aimerais savoir si c'est réellement cela qui a poussé à faire destituer le Premier ministre, ou bien il y a d'autres raisons, parce qu'on l'accuse aussi de corruption. Et j'aimerais avoir un peu d'éclaircissement sur cette question-là.
Oui, Ali Zeidan, contraint à la démission après un an et demi aux fonctions de Premier ministre. Marine Casalis, c'est vrai que ça faisait un petit moment Ali Zeidan était un peu poussé vers la sortie. Que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il été destitué ?
Alors en fait, ça faisait effectivement des mois que des groupes de députés essayaient de faire tomber le gouvernement d'Ali Zeidan. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un véritable conflit ouvert qui n'a fait que croître entre le législatif et l'exécutif. Donc, plusieurs tentatives de vote de confiance avaient échoué jusqu'au mois de mars. Ils avaient échoué à réunir en fait le nombre de votes nécessaires pour destituer Ali Zeidan. Et donc, en plus des critiques habituelles, donc en particulier sur l'insécurité dans le pays et le nombre d'armes en circulation, eh bien la crise pétrolière qui a atteint son sommet avec cette tentative d'exportation illégale et le navire Morning Glory, eh bien, cette crise a permis de rassembler les quelques voix supplémentaires nécessaires et a mis fin au long bras de fer, en fait, entre l'exécutif et le législatif et a permis donc de aux députés qui le souhaitaient, de se débarrasser du Premier ministre Ali Zidane, qui a quitté assez précipitamment la Libye et s'est réfugié en Europe après un arrêt à Malte. Il faut savoir que cet ancien Premier ministre dispose de deux nationalités, donc allemande et libyenne. Sur France 24, il était revenu sur ce vote et a dénoncé donc un vote frauduleux pour le destituer.
Merci Marine Casalis d'avoir été avec nous ce matin en direct de Tripoli. Jean, bonne journée à Cotonou. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, notre débat du jour et surtout vos réactions concernant le transfèrement de Charles Blé Goudet à la Cour pénale internationale. 33 9 693 693 70. Nous allons au Cameroun. Luc Cyril, bonjour.
Bonjour.
Vous avez des questions sur la Syrie?
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Oui, depuis mercredi 5 mars, effectivement, la Syrie a décidé la fermeture de ses ambassades au Koweït et en Arabie Saoudite. À ce sujet, j'aimerais savoir comment expliquer cette fermeture des ambassades syriennes à ce moment précis dans ces deux pays, quand on sait que la Syrie entretient avec des relations délétères depuis le début de la rébellion.
Ouais, pourquoi maintenant et pas avant? Effectivement, c'est vrai que cette crise couvait depuis un certain nombre de mois. Fabrice Balanche est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, spécialiste de la Syrie. Alors effectivement, la Syrie a fermé ses ambassades au Koweït et en Arabie Saoudite. Pourquoi cette crise éclate-t-elle maintenant?
Il faut dire que les États-Unis viennent de fermer justement l'ambassade de Syrie, ainsi que les divers consulats qu'il y a sur son territoire. Par conséquent, les pays du Golfe suivent le mouvement, c'est-à-dire que ferment eux aussi les ambassades syriennes. Alors bon, pourquoi 3 ans après le début de la crise, les États-Unis se décident à fermer l'ambassade de Syrie? Je pense que c'est un geste de mauvaise humeur par rapport aux avancées de l'armée syrienne récemment, puisqu'ils ont repris plusieurs localités. Ça vient aussi après l'échec de Genève 2, où la Syrie n'a fait absolument aucune concession à l'opposition. Et je pense que les États-Unis signifient ainsi à Assad que malgré ses victoires, eh bien, ils ne renoueront jamais avec lui. Et c'est la même position pour les pays pétroliers du Golfe qui sont sur la même position que les États-Unis.
Et alors justement, sur les autres monarchies du Golfe, vous aviez une question, Luc Cyril?
Oui, c'est ça. Je voulais donc savoir quelles sont les relations entre la rébellion syrienne et tous ces pays de la région en général.
Les relations entre les pays du Golfe et la rébellion syrienne. Fabrice Balanche, c'est vrai que les monarchies du Golfe soutiennent la rébellion.
Oui, tout à fait. Et depuis le début de la crise, les pays du Golfe soutiennent diplomatiquement l'opposition syrienne. Ils la soutiennent militairement, financièrement. Là, la dernière coalition militaire en date, le Front islamique, c'est une création saoudienne qui vise à unifier les rebelles syriens. Ils déversent donc chaque année des milliards de dollars sur cette opposition. Vous avez aussi le Koweït qui finance beaucoup à travers des fondations privées, mais il ne fait pas beaucoup de publicité là-dessus. Il est plus discret. Tous ces Koweït et Arabie Saoudite ont pris en fait la place du Qatar, qui au début était vraiment le chantre de la croisade anti Bachar el-Assad. Seulement le Qatar soutient davantage les frères musulmans, ce qui évidemment déplaît à l'Arabie Saoudite. Et puis il a encore des hommes dans la coalition nationale syrienne. Avant tous les congrès se faisaient à Doha, maintenant ce n'est plus le cas parce que il a un peu jeté l'éponge de ce côté-là, et puis l'Arabie Saoudite a pris la suite depuis l'été 2013.
Oui, effectivement, et le Qatar est mal vu finalement par les autres monarchies du Golfe. Le Qatar est même accusé par ses voisins de s'ingérer dans les affaires du monde arabe.
Oui, ça c'est clair, c'est une accusation, c'est la réalité, puisqu'on sait que les frères musulmans en Égypte ont été financés par le Qatar. En Tunisie, c'est pareil. Al-Nahda était également financé par le Qatar, ce qui lui a permis de gagner les élections. Il s'appuie sur la confrérie des frères musulmans pour prendre fait contre-pied par rapport à l'Arabie Saoudite. Le Qatar, pour exister, a toujours pris le contre-pied de la politique saoudienne, se rapprochant de l'Iran, jouant les intermédiaires avec le Hezbollah libanais, par exemple. et puis soutenant les frères musulmans qui sont, je dirais, les ennemis de la monarchie saoudite qui soutient, elle, les salafistes.
Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite ne supporte plus que le Qatar lui vole, pour ainsi dire, la vedette en matière de politique étrangère dans la sous-région. Fabrice Vallange, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 2. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, n'hésitez pas, abusez du téléphone, abusez des réseaux sociaux, envoyez-nous vos questions, 33 9 693 693 70. À suivre le journal et dans 10 minutes notre débat sur le transfèrement de Charles Blégoudé à la Cour pénale internationale.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.